quelque chose. Il se rappela son mensonge et dit qu'il espérait parvenir au Conseil d'État, grâce à M. d'Ambreuse, le député. « Vous le connaissez peut-être ?»«
De nom seulement. »
Puis, d'une voix basse, « Il vous a mené au bal l'autre jour, n'est-ce pas ?» Frédéric se taisait. « C'est ce que je voulais savoir, merci. » Ensuite, elle lui fit deux ou trois questions discrètes sur sa famille et sa province. C'était bien aimable d'être resté là-bas si longtemps, sans les oublier. « Mais le pouvais-je » reprit-il. « En doutiez-vous » Madame Arnoux se leva. « Je crois que vous nous portez une bonne et solide affection. Adieu. Au revoir. » Il tendit sa main, d'une manière franche et virile. N'était-ce pas un engagement, une promesse? Frédéric se sentait tout joyeux de vivre. Il se retenait pour ne pas chanter. Il avait besoin de se répandre, de faire des générosités et des aumônes. Il regarda autour de lui s'il n'y avait personne à secourir. Aucun misérable ne passait. Et sa velléité de dévouement s'évanouit, car il n'était pas homme à en chercher au loin les occasions. Puis, il se ressouvint de ses amis. Le premier auquel il songea fut Hussonnet, le second Pellerin. La position infime de Dussardier commandait naturellement des égards. Quant à Sisy, il se réjouissait de lui faire voir un peu sa fortune. Il écrivit donc à tous les quatre de venir pendre la crémaillère le dimanche suivant, à 11 heures juste, et il chargea des lauriers d'amener Sénécal. Le répétiteur avait été congédié de son troisième pensionnat pour n'avoir point voulu de distribution de prix, usage qu'il regardait comme funeste à l'égalité. Il était maintenant chez un constructeur de machines et n'habitait plus avec des lauriers depuis 6 mois. Leur séparation n'avait eu rien de pénible. Sénécal, dans les derniers temps, recevait des hommes en blouse, tous patriotes, tous travailleurs, tous braves gens, mais dont la compagnie semblait fastidieuse à l'avocat. D'ailleurs, certaines idées de son ami, excellentes comme arme de guerre, lui déplaisaient. Il s'entaisait par ambition, tenant à le ménager pour le conduire, car il attendait avec impatience un grand bouleversement où il comptait bien faire son trou, avoir sa place. Les convictions de Sénécal étaient plus désintéressées. Chaque soir, quand sa besogne était finie, il regagnait sa mansarde, et il cherchait dans les livres de quoi justifier ses rêves. Il avait annoté le contrat social. Il se bourrait de la revue indépendante. Il connaissait Mably, Morelli, Fourier, Saint-Simon, Comte, Cabet, Louis Blanc. La lourde charté des écrivains socialistes, ceux qui réclament pour l'humanité le niveau des casernes, ceux qui voudraient la divertir dans un lupanar ou la plier sur un comptoir. Et du mélange de tout cela, il s'était fait un idéal de démocratie vertueuse, ayant le double aspect d'une métairie et d'une filature, une sorte de lacédémone américaine, où l'individu n'existerait que pour servir la société, plus omnipotente, absolue, infaillible et divine que les grands lamas et les Nabuchodonosors. Il n'avait pas un doute sur l'éventualité prochaine de cette conception, et tout ce qu'il jugeait lui être hostile, Sénécal s'acharne dessus avec des raisonnements de géomètre et une bonne foi d'inquisiteur. Les titres nobiliaires, les croix, les panaches, les livrées surtout, et même les réputations trop sonores le scandalisaient. Ses études, comme ses souffrances, avivant chaque jour sa haine essentielle de toute distinction ou supériorité quelconque. « Qu'est-ce que je dois à ce monsieur pour lui faire des politesses? S'il voulait de moi, il pouvait venir. » Deslauriers l'entraîna. Ils trouvèrent leur ami dans sa chambre à coucher. Store et double rideau, glace de Venise, rien n'y manquait. Frédéric, en veste de velours, était renversé dans une bergère où il fumait des cigarettes de tabac turc. Sénécal se rembrunit, comme les cagots amenés dans les réunions de plaisir. Deslauriers embrassa tout d'un seul coup d'œil, puis, le saluant très bas, « Monseigneur, je vous présente mes respects. » Dussardier lui sauta au cou. « Vous êtes donc riche maintenant ?»« Ah, tant mieux, nom d'un chien, tant mieux !» Sisy parut, avec un crêpe à son chapeau. Depuis la mort de sa grand-mère, il jouissait d'une fortune considérable, et tenait moins à s'amuser qu'à se distinguer des autres, à n'être pas comme tout le monde, enfin, avoir du cachet. C'était son mot. Il était midi, cependant, et tous bâillaient. Frédéric attendait quelqu'un. Au nom d'Arnoux, Pellerin fit la grimace. Il le considérait comme un renégat, depuis qu'il avait abandonné les arts. « Si l'on se passait de lui, qu'en dites-vous »
tous approuvèrent. Un domestique en longue guêtre ouvrit la porte, et l'on aperçut la salle à manger avec sa haute plinthe en chêne relevée d'or et ses deux dressoirs chargés de vaisselle. Les bouteilles de vin chauffaient sur le poêle. Les lames des couteaux neufs miroitaient près des huîtres. Il y avait dans le ton laiteux des verres mousselines comme une douceur engageante, et la table disparaissait sous du gibier, des fruits, des choses extraordinaires. Ses attentions furent perdues pour Sénécal. Il commença par demander du pain de ménage, le plus ferme possible, et à ce propos parla des meurtres de Buzancay et de la crise des subsistances. Rien de tout cela ne serait survenu si on protégeait mieux l'agriculture, si tout n'était pas livré à la concurrence, à l'anarchie, à la déplorable maxime du laisser-faire, laisser-passer. Voilà comment se constituait la féodalité de l'argent, pire que l'autre. Mais qu'on y prenne garde, le peuple, à la fin, se lassera et pourra faire payer ses souffrances aux détenteurs du capital, soit par de sanglantes proscriptions ou par le pillage de leurs hôtels. Frédéric entrevit dans un éclair un flot d'hommes aux bras nus envahissant le grand salon de Madame d'Ambreuse, cassant les glaces à coups de pique. Sénécal continuait. L'ouvrier, vu l'insuffisance des salaires, était plus malheureux que l'ilote, le nègre et le paria, s'il a des enfants surtout. Doit-il s'en débarrasser par l'asphyxie, comme le lui conseille je ne sais plus quel docteur anglais, issu de Malthus? Et se tournant vers Sisy, en serions-nous réduits au conseil de l'infâme Malthus? Sisy, qui ignorait l'infamie et même l'existence de Malthus, répondit qu'on secourait pourtant beaucoup de misère et que les classes élevées... Ah ! Les classes élevées, dit en ricanant le socialiste. D'abord, il n'y a pas de classes élevées. On n'est élevé que par le cœur. Nous ne voulons pas d'aumône, entendez-vous, mais l'égalité, la juste répartition des produits. Ce qu'il demandait, c'est que l'ouvrier pût devenir capitaliste, comme le soldat, colonel. Les jurandes, au moins, en limitant le nombre des apprentis, empêchait l'encombrement des travailleurs, et le sentiment de la fraternité se trouvait entretenu par les fêtes, les bannières. Hussonnet, comme poète, regrettait les bannières. Pellerin aussi, prédilection qui lui était venue au café d'Agneau, en écoutant causer des phalanstériens. Il déclara Fourier un grand homme. « Allons donc, dit Deslauriers, une vieille bête, qui voit dans les bouleversements d'empire des effets de la vengeance divine. » C'est comme le sieur Saint-Simon et son église, avec sa haine de la Révolution française, un tas de farceurs qui voudraient nous refaire le catholicisme. Monsieur de Sisy, pour s'éclairer sans doute, ou donner de lui une bonne opinion, se mit à dire doucement : « Ces deux savants ne sont donc pas